Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Après plusieurs années de tentatives infructueuses, l'opérateur portuaire marocain Marsa Maroc réussit enfin à se positionner en Afrique subsaharienne et c'est dans le très stratégique port de Cotonou au Bénin qu'il a réussi à lier un partenariat. Retour donc sur ce partenariat avec l'analyse de l'expert maritime Najib Cherfaoui qui sera notre invité. Et dans cette émission, nous irons également à Niamey. Le Maroc a mis à la disposition du Niger une centrale thermique de 22,5 MW. Notre correspondant à Niamey était en visite sur le site de cette centrale en construction. Vous entendrez son reportage. Et puis au Sénégal, où l'on met le cap sur la renégociation des contrats sur les ressources naturelles, les commerçants et bijoutiers sénégalais appellent à la mise en place d'un comptoir d'achat d'or. Ce sera notre destination éco avec notre correspondante à Dakar, Eva Sagnan. Tels sont les principaux titres de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, nous prenons la direction de Niamey pour retrouver notre correspondant sur place, Jean-Djibril William. Jean-Djibril William qui a accompagné la ministre nigérienne de l'énergie et l'ambassadeur du Maroc à Niamey, qui était en visite sur le site de la centrale thermique que le Maroc a mis à la disposition du Niger d'une capacité de 22,5 MW. Cette centrale thermique devrait permettre d'accroître la capacité énergétique du Niger qui importe près de 70% de son électricité. Compte rendu de cette visite avec Jean-Djibril William, dans son reportage, vous entendrez d'abord El Achab Allal, qui est l'ambassadeur du Maroc à Niamey, puis Amadou Hawa, ministre de l'énergie du Niger. C'est parti donc avec Jean-Djibril William.
C'est un geste de solidarité qui devrait permettre de grandement accroître les capacités énergétiques du Niger. Après la visite d'experts et techniciens marocains il y a quelques semaines, les autorités du Niger ont procédé à la réception des principaux composants d'une future centrale thermique d'une capacité de 22,5 MW. Au total, 9 groupes électrogènes installés sur le site Niamey 2 de la capitale nigérienne, offerts par le Royaume du Maroc.
Tendon royal composé de 9 groupes électrogènes, en plus de matériel électrique. Donc ça sera un site qui sera livré à la Nigeria, Inch'Allah, clé à la main. On va assister, Inch'Allah, à la première production d'ici la fin du mois. J'espère, Inch'Allah, que ce projet, qui n'est pas d'ailleurs le premier de coopération avec la Nigeria, il y a d'autres projets qui sont en cours avec la Nigeria, mais Inch'Allah, que ce sera un projet qui consolide, Inch'Allah, davantage nos relations d'amitié et de coopération.
Un don bienvenu qui fait suite aux instructions royales après la visite à Rabat en décembre dernier du Premier ministre du Niger. Et pour les autorités locales, la future centrale devrait permettre de faire face à une demande croissante en électricité dans la capitale nigérienne.
Tous mes remerciements, Excellence. Et ça montre l'exemple des partenariats bilatéraux. Et considérer que ces installations sont les premiers échelon du lancement de la conquête de notre souveraineté énergétique.
Selon l'ambassadeur du Maroc au Niger, plusieurs autres projets seraient également en cours dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays. Objectif pour le Royaume du Maroc, appuyer le Niger dans sa quête d'une souveraineté énergétique.
Zoom Express.
Et nous parlons transfert d'argent en Afrique et pour cela nous recevons Mathias Léopoldi, il est cofondateur de Joulaya, c'est une application de mobile money active dans le transfert d'argent En Afrique, parlez-nous de votre application mobile. Quel est son domaine d'activité?
Alors, nous sommes une fintech, donc Financial Technology. Nous adressons les besoins des entreprises qui veulent digitaliser leurs transactions financières. Et donc, nous leur permettons de pouvoir accéder aux nouveaux moyens de paiement que sont les portefeuilles de monnaie électronique. Avec notre application, les entreprises peuvent envoyer de l'argent sur les comptes de monnaie électronique pour payer les salariés, par exemple, qui ne seraient pas bancarisés dans la construction, la logistique, la sécurité, le transport. Et nous leur permettons aussi de digitaliser leurs espèces. Donc, au lieu d'avoir à trouver une agence bancaire qui ne sont pas beaucoup présentes dans la région, ils peuvent directement aller dans un point de mobile money pour déposer leurs espèces et digitaliser leurs transactions.
Alors, c'est intéressant justement dans cette quête d'inclusion financière en Afrique. On sait que dans beaucoup de pays du continent, le taux de bancarisation dépasse à peine les 15%. Et avec ce type, disons, d'initiative, pensez-vous réellement que vous êtes en train de favoriser l'inclusion financière? Et je fais la différence entre taux de bancarisation et l'inclusion financière, que vous savez bien évidemment.
Tout à fait. Donc, taux de bancarisation, on est à peu près 25% dans notre région, alors que inclusion financière, quand on prend les portefeuilles de monnaie électronique fournis par les opérateurs et les émetteurs de monnaie électronique, on peut monter, par exemple, en Côte d'Ivoire à 80%. Et il faut savoir que depuis 15 ans, c'est un Africain sur deux d'Afrique subsaharienne qui a ouvert un portefeuille de monnaie électronique. Et donc, la prochaine étape de la révolution maintenant, c'est de faire en sorte que tous les paiements du commerce, que ce soit l'encaissement des paiements à distance, la digitalisation des espèces, se fassent à travers aussi ces réseaux. Donc, il y a aujourd'hui un besoin très fort pour les moyennes, même jusqu'aux grandes entreprises, de pouvoir accéder à ces services financiers proposés par les infrastructures télécom. Et donc, nous, c'est ce qu'on adresse. Grâce à ça, en fait, ça fait la baisse de la prévalence des espèces dans le commerce et ça permet de faire des nouveaux cas d'usage, notamment de pouvoir fournir des crédits grâce aux données transactionnelles qu'on a de la digitalisation.
Alors, donc si je vous comprends bien, aujourd'hui sur le continent, il y a des entreprises qui, au lieu de payer par virement bancaire, elles ont la possibilité de payer à travers des transferts de fonds par mobile money.
Exactement.
Cela dit, est-ce qu'il y a un intérêt par rapport à ces activités-là?
Oui, il y a un intérêt puisque, comme on le disait, les personnes qui sont payées à travers ces nouveaux moyens de paiement n'ont pas de compte bancaire. Donc, la seule façon de les payer de manière digitale, c'est à travers les portefeuilles de monnaie électronique. Donc, ça permet vraiment d'adresser, si vous prenez des cas d'usage, par exemple dans la construction, les ouvriers sur le chantier, avant, faisaient la queue pendant 4 heures, 5 heures pour pouvoir être payés et maintenant reçoivent instantanément leur salaire sur leur portefeuille de monnaie électronique qu'ils ont sur leur téléphone.
En tout cas, c'est encourageant. Alors, justement, ça permet de parler de ces entreprises et de ces startups du continent. On est dans une quête de licorne africaine. Quand on dit licorne africaine, ce sont ces entreprises, ces startups africaines capables de lever au moins $1 million, si je ne me trompe pas. Alors, où est-ce qu'on en est dans le domaine de la mobile money et des fintechs?
Tout à fait. Alors, donc, les licornes, c'est les entreprises valorisées à plus $1 milliard. Il y a peut-être deux autres expressions intéressantes. C'est les centaures, c'est les entreprises qui font plus de $100 million de chiffre d'affaires. Et donc, à ce niveau, dans la fintech en Afrique, vous en avez plusieurs. À premier titre, ce sont les opérateurs téléphoniques. Si vous prenez Orange Money, MTN Money ou même Wave dans notre région, ils réalisent ce niveau de chiffre d'affaires. Et vous avez des fintechs pures, typiquement en Égypte, par exemple, MNT Alan, qui est un très bon exemple, qui fournit exactement des services d'utilisation pour les petits entrepreneurs. Donc, on va dire que la fintech est vraiment le secteur privilégié pour ces tailles d'entreprises et qui sont le moteur de l'économie numérique. Donc, aujourd'hui, plus de 40% des investissements dans les startups en Afrique, Afrique subsaharienne, ça va vers les fintechs. Et vous avez en fait, la moelle épinière ou l'épine dorsale de toute l'économie digitale se repose sur la fintech, donc les paiements, la digitalisation des paiements.
Est-ce que ces fintechs parviennent à lever facilement des fonds?
Alors, comme je disais, c'est la majorité des investissements qui vont vers ce type d'entreprise. Maintenant, il faut savoir que depuis à peu près un an, il y a eu un certain ralentissement du montant des investissements, mais c'est un secteur qui reste très attractif pour les investissements, du fait que les opportunités en fait, économiques se situent d'abord à cette base des besoins de l'économie digitale qui permettent après de construire les systèmes de e-commerce, les systèmes de e-santé, les systèmes de e-éducation, etc.
Merci à vous, Mathias Léopoldi. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Julaya, une application de mobile money active dans le transfert d'argent en Afrique. Julaya veut dire en langue bambara, commerce, une langue qui est parlée, bien évidemment, dans beaucoup de pays du continent, notamment en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Coémergence, l'invité.
Je vous le disais en titre, notre invité s'appelle Najib Cherfaoui, le professeur Najib Cherfaoui, que nous avons le plaisir de retrouver. Cette fois, c'est pour parler de ce partenariat donc de l'opérateur portuaire marocain Marsa Maroc, qui a réussi à se positionner en Afrique subsaharienne. Et c'est dans le très stratégique port de Cotonou que cela a eu lieu. Retour donc sur ce partenariat. Je rappelle que Marsa Maroc, en collaboration avec BD Manutention SA, donc sera appelé à assurer la gestion déléguée donc des terminaux 1 et 5 du port de Cotonou. Ce port, je le rappelle, est très stratégique parce qu'il sert à l'Interland, comme donc des pays comme le Niger ou encore le Burkina Faso. Bonjour à vous, professeur Najib Cherfaoui, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors, professeur, expliquez-nous plus en détail de ce dont il s'agit à travers donc ce partenariat entre Marsa Maroc, qui est donc sélectionné pour gérer les terminaux 1 et 5 du port de Cotonou, et l'entreprise béninoise Benin Manutention SA.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2018, le port de Cotonou travaille en partenariat avec le port d'Anvers. À travers ce partenariat, l'autorité portuaire de Cotonou, elle a fait un choix judicieux, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la concurrence entre des ports le long de l'Afrique, ils ont choisi, et ça c'est vraiment excellent, ils ont choisi de privilégier la concurrence à l'intérieur du port. Alors, le port aujourd'hui, il dispose de 4 terminaux, il n'y en a pas 5, hein, il y en a 4. Le cinquième, c'est pour 2030. Le terminal 5 dont vous parlez, c'est pour 2030. Il n'existe pas. Le terminal 1, aujourd'hui, c'est un terminal qui ne sera opérationnel qu'en 2027. Donc les terminaux 1 et 2 sont aujourd'hui on dit qu'ils sont en train de les mettre à niveau, c'est-à-dire que tout le bassin portuaire sera mis à moins 15 mètres pour pouvoir recevoir les grands navires. Mais le terminal 1, c'est un terminal à marchandises diverses. Alors le seul terminal à conteneurs qui existe actuellement, c'est le terminal 3 qui est opéré par MSC. MSC se laissait aller. L'autorité portuaire a compris que pour activer, pour stimuler MSC, il fallait privilégier la concurrence à l'intérieur du port. D'ailleurs, dès qu'ils ont annoncé que le deuxième terminal 5 sera construit pour le conteneur, MSC a aussitôt multiplié tous les moyens de travail à l'intérieur du port. Et actuellement, il est capable de traiter, dans ce qu'elle fait, dans le terminal 3, à peu près 1 million de boîtes. Le port de Cotonou fait en moyenne 300 000 boîtes et peut aller jusqu'à 500 000 boîtes actuellement. Je ne sais pas si la situation est claire.
Elle est claire, professeur. En tout cas, Marsa Maroc, donc, à travers ce partenariat avec Benin Manutention SA, donc, s'engage ou verra à la mise en exploitation des terminaux donc 1 et 5 dans les délais et conformément aux standards internationaux et à la mise en œuvre de plusieurs chantiers de modernisation, et ce, en conformité avec la vision du gouvernement béninois, donc lit-on sur le communiqué donc publié avec à l'issue donc de cette nouvelle. Alors, cela dit, professeur, est-ce donc plutôt une bonne nouvelle qu'aujourd'hui que les opérateurs marocains puissent s'internationaliser dans ce domaine-là?
Ce qui est important, ce n'est pas de s'internationaliser. Le fait est que les opérateurs marocains ont compris, ça nous l'avons expliqué plusieurs fois, que pour réussir cette internationalisation portuaire, il fallait être adossé à un armateur. Et l'armateur auquel sont adossés aujourd'hui les opérateurs marocains, c'est Hapag-Lloyd.
L'armateur allemand.
L'armateur allemand, qui effectivement cherche une place parce que sa présence en Afrique est très faible. Pour toute l'Afrique, hein, c'est-à-dire en allant de Casablanca et en revenant à Casablanca, en faisant le tour de l'Afrique, Hapag-Lloyd ne dispose que d'une capacité de 5 millions de boîtes. Vous voyez, contre, par exemple, 25 millions de boîtes pour Maersk. Donc, il cherche effectivement à se développer. Mais ce qui est important pour le port de Cotonou et pour l'opérateur marocain, c'est qu'il pourra enfin desservir toute l'Afrique, parce que le trafic Maroc-Afrique de l'Ouest se fait à partir de Casablanca. Hein. C'est à peu près 50 000 boîtes. Pour le Bénin, c'est pas mal. Hein. Le Maroc fait, à partir de Casablanca, il fait en trafic de conteneurs, hein, il fait 3 000 boîtes par an, ce qui est bien. Maintenant, ce qui est fondamental, c'est qu'à partir du port de Cotonou, on va pouvoir desservir, il se trouve au nord hein, du Bénin, donc on va pouvoir desservir le Niger, là, qui s'est doté d'une, enfin il est en train de se doter de chemin de fer, et il y a la route qui est déjà opérationnelle. Et ensuite, il y a le Burkina Faso, et vous avez le Mali, et surtout le Nigeria.
Mmh. Bon.
Donc les Marocains sur place auront à desservir un marché évalué à peu près à 100 millions de consommateurs. Voilà l'enjeu.
Mmh. Un enjeu donc important qui exige également le développement de ces fameux corridors, aussi terrestres. Hein? On en a parlé à plusieurs reprises ici avec vous, professeur Cherfaoui. Justement, par rapport à ces corridors, comment voyez-vous aujourd'hui leur développement sur le continent?
Ben, tous ces corridors, c'est tout l'enjeu hein, de la présence des armateurs dans les ports. C'est pour accéder à ces corridors, parce que ces corridors mène tout droit à, bien sûr, un marché de 1 milliard, 2,3 de consommateurs. Hein. Mmh. Et tout le monde a compris que ces corridors, ce sont les voies respiratoires. Hein. Mmh. Ils vont d'est en ouest, ou bien d'ouest en est, hein, ça va dans les deux sens. Et puis là, on a de jolis corridors vers le Niger, vers le Burkina Faso et vers le Mali, qui fait que le Maroc ouvre surtout un corridor nord qu'on va appeler un corridor maritime. Et ça, c'est un très bon pivot, très belle opération. C'est très bien parce que là, pratiquement, on est à l'extrémité de l'Afrique de l'Ouest. Mmh. Alors, on est dans le golfe de Guinée. Hein.
Exactement.
Donc, c'est une très belle opération qui serait une très belle réussite. Mais c'est une opération d'avenir, hein, 2027 et 2030 pour le terminal 5.
Mmh. En tout cas, c'est important, je le rappelle, comme vous l'avez si bien mentionné d'ailleurs, professeur, que donc le port de Cotonou, donc c'est dans le golfe de Guinée. Je rappelle que le Bénin donc est frontalier avec le Nigeria et donc le Togo. Et puis, donc, ce port se trouve donc dans le sud hein, du pays, donc qui borde l'océan Atlantique dans le golfe de Guinée. Alors, c'est une bonne nouvelle plutôt aussi également, professeur, en ce qui concerne cette coopération africaine, afro-africaine dans le domaine maritime.
Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus parce que, il ne faut pas dire des phrases comme ça, bonne nouvelle, c'est que le port de Cotonou, il faut voir l'aménagement, hein. Ça va être un bijou, hein. C'est tellement bien fait, hein. C'est extrêmement beau. À partir de là, tout est possible. Hein. À partir de là, effectivement, c'est une coopération qui n'est pas, disons, formelle, c'est vraiment opérationnel. Hein. C'est-à-dire que là, on a mis les bases d'une table de travail. Mais c'est vraiment un très, très joli port, une très, très belle opération. Que le Maroc soit là-bas, et ça ouvre toutes les perspectives pour la décennie 2030-2040. Hein, c'est là qu'il faut se projeter, hein, pas pour tout de suite.
En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, professeur Najib Cherfaoui. Je rappelle que vous êtes expert maritime. Vous nous parliez donc de cette opération de Marsa Maroc dans le port autonome, au port autonome donc de Cotonou à travers ce partenariat avec Bénin Manutention SA pour la gestion des terminaux 1 et 5 donc de ce port. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur.
C'est un honneur.
Destination Éco.
Direction le Sénégal où l'on met le cap sur la renégociation des contrats sur les ressources naturelles et les commerçants et bijoutiers sénégalais appellent à la mise en place d'un comptoir d'achat d'or. Suivons les explications d'Eva Sagna depuis Dakar.
Le Sénégal exporte une partie de son or, contribuant ainsi à son économie nationale. Cependant, la commercialisation de l'or au Sénégal est une activité économique significative qui connaît une croissance depuis quelques années. Son inflation fait référence à l'augmentation du prix sur le marché. Matière précieuse, son instabilité économique est souvent perçue comme une réserve de valeur sûre. C'est pourquoi une demande accrue d'or, que ce soit pour des investissements, des bijoux ou d'autres utilisations industrielles, peut entraîner une hausse des prix.
N'oubliez pas que le produit or est fixé au niveau international, sur le marché international, ce qu'on appelle l'once, qui détermine la valeur de l'or. Maintenant, comme l'or est collé à certaines devises, ou bien est collé à certaines monnaies, donc fondamentalement, c'est un produit prisé donc sur le marché, donc qui peut fondamentalement jouer sur la demande, l'offre, le prix, et donc créer des situations inflationnistes ou bien une tendance haussière.
Le Sénégal possède plusieurs sites aurifères dans différentes régions du pays, notamment à Sabadola, où se trouve la plus grande mine d'or du pays. L'or est vendu dans les marchés locaux et internationaux.
Nous avons dénoncé le fait que l'or du Sénégal ne circule pas au Sénégal parce qu'il n'y a pas un comptoir d'achat d'or. Puisqu'il n'y a pas de comptoir d'achat d'or, la matière première devient de plus en plus rare pour l'artisan bijoutier. Donc c'était un problème au Sénégal. Le Sénégal ne peut pas être un pays producteur d'or et il n'y a pas de comptoir d'achat d'or ici au Sénégal, ni une raffinerie.
Bien qu'il offre des opportunités économiques, l'or possède également une durée de vie et une touche de beauté. Ce que confirme cette dame.
J'aime l'or et je demande également aux femmes comme moi de s'acheter des bijoux en or, car l'or est comme un coffre-fort ou encore un compte bancaire. Il a de la valeur. Il a une touche de beauté chez les femmes. L'aspect esthétique n'est nullement comparable. J'ai acheté tout à l'heure deux bracelets de 21 carats.
À noter que la commercialisation de l'or au Sénégal est une industrie en croissance. Les nouvelles autorités sénégalaises comptent miser sur la transparence et la bonne gouvernance des ressources naturelles du pays. Une façon de faire profiter à leur population des retombées économiques de ces industries.
Merci à vous, Eva Sagnan, correspondante de Midi 1 à Dakar. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.